Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 28. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Je suis content de te retrouver après ces quelques semaines de petits breaks. Enfin, break. On n'était pas non plus sur des pistes de ski ou ailleurs.
Oui, je n'utiliserai pas le mot break. Mais...
Tu avais en effet le bif à gérer le festival de films fantastiques à Bruxelles, qui s'est bien terminé là, le week-end dernier. Un beau succès, pas mal de films, pas mal de monde aussi. Voilà, donc t'es crevé, t'as eu des longues journées, ouais. mais ça en valait la peine.
Si je baille tout le temps pendant l'émission, faut m'excuser.
Non, on va pas commencer.
Si je m'endors pendant l'émission, faut m'excuser.
Parce que vous l'avez lu au titre de cette émission, il y a quand même du très 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 lourd. Tu sors à peine de la projection.
Ah oui, oui.
À peine, t'as eu juste le temps de manger un petit bout et puis on est là, on allume le micro, on en parle. On va tout spoiler, non je rigole, vous connaissez de la maison, on ne spoil pas les films dans Cinécast, donc si vous avez vu ce podcast quelque part sur iTunes ou autre et que vous avez cliqué dessus, sachez qu'on ne va pas spoiler la fin de Avengers Endgame, on va parler par contre du film, est-ce qu'il s'est bien par rapport à Infinity War, est-ce qu'il y a le scénario t'as surpris ou non, voilà, est-ce que les frères Russo sont parvenus à faire un truc tout aussi qualitatif que Infinity War, ce sera le sujet de la discussion. On va également parler de deux autres films, Mid-90s de Jonah Hill. Oui, Jonah Hill se lance à la réalisation avec son premier film. Et At Eternity's Gate, un film qui avait été présenté, je pense, au Festival de Cannes l'année passée, si je ne me trompe pas.
C'était à Venise.
À Venise, pardon. Bah, presque la saison de l'été, en tout cas. Avec Willem Dafoe. Film qui retrace la vie du peintre, et je crois que c'est notre ami Van Gogh. Si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps qu'on en avait parlé de ce film. Maintenant, il sort en salle. On va également, du coup, l'aborder. C'était à Venise et non pas à Cannes. Par contre, on reste dans cette espèce de summer vibe, saison de l'été, festival et autres, puisque, vous l'avez peut-être vu, le programme du Festival de Cannes est enfin tombé. Enfin, programme, en tout cas la sélection officielle. Et également les deux autres sélections, Un certain regard et les films hors compétition. Il y a encore les sous-sélections, qui ne sont pas vraiment des sous-sélections, mais des sélections annexes, qui ont été annoncées, mais on ne va pas spécialement les parcourir maintenant, parce que sinon c'est un spécial Cannes. Ce n'est pas le but, c'est quand même plus un spécial Avengers qu'un spécial Cannes. Hein. Donc je propose qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on passe directement au box-office, comme ça on va aller à la critique de Avengers. Le box-office pour la semaine précédente, c'est un box-office assez contrasté, assez intéressant, je trouve. Puisqu'on va partir du numéro 10, hein, voilà, 10, tu me dis, c'est loin, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés dans le classement français ces dernières semaines, vu qu'on n'était pas là, c'est important d'en parler. Captain Marvel, forcément, 10e, avec 130 000 entrées pour 3 188 000 entrées, donc un énorme succès en France.
Il est déjà à plusieurs semaines de... Ça fait déjà un moment qu'il est sorti.
Ça fait un petit temps. Il est toujours dans 425 salles.
Il est sorti quand exactement? Début mars? Mi-mars?
On en a parlé, donc ça remonte à longtemps. Ouais. Ça remonte à au moins 5 semaines. Just Gigolo. Nouveau film d'Olivier Barou.
Oh mon Dieu.
Et que se passe-t-il avec Cadmerade? Nouvelle sortie en France. 130 000 entrées, donc autant vous dire que 9e au classement pour un nouveau film avec Cadmerade d'Olivier Barou, on a l'impression de revoir le scénario de Mais qui a retué Pamela Rose, qui avait fait un flop total dans le cinéma.
Tant mieux.
Pourtant, c'était pas encore trop trop nul pour l'avoir rattrapé.
Il fait quand même ses daubes en grâce aux tuches, quoi.
Mais en fait, c'est comme Spielberg, c'est un pour moi, un pour eux, tu vois. Sauf que lui, c'est un pour moi, c'est... Juste Gigolo, et pour eux, c'est les tiges, donc ça voilà. Te dit le niveau du gars.
C'est un peu ça.
Ensuite, 8e, Shazam, 220 000 entrées. Donc lui, il est sorti assez récemment, il n'est même pas encore 1 million d'entrées en France. Je crois que c'est sa 2e semaine. C'est une belle chute, clairement. C'est un film qui pourrait aspirer à un meilleur résultat, surtout que c'est l'univers DC, etc. C'est un film de super-héros, et maintenant il y a Avengers qui sort, donc autant vous dire qu'il n'aura pas trop d'espoir de continuer. Donc c'est pas un grand succès chez nous, mais c'est pas étonnant. Hein. Il n'y a pas de star au casting, Zachary Levi est plus connu aux États-Unis qu'ici, et donc je pense que ça ne marche pas bien dans les pays outre-Atlantique. Enfin, chez nous, quoi. 7e, c'est Royal Corgi, le film belge, d'animation donc belge, qui a fait 240 000 entrées en France pour un total de 500 000 entrées. C'est dommage, un film d'animation pourrait aspirer à plus, mais j'ai vu qu'il avait fait des plutôt bons résultats en Angleterre, notamment. faut dire avec un sujet pareil, voilà, chaîne royale, etc. Ça, ça marche bien en Angleterre. Surtout s'il y a l'histoire d'adultère, enfin, soit on va pas en parler. Mais clairement, c'est un bon résultat pour Royal Corgi en France, même si forcément, étant un film belge, on aurait aimé que ce soit un peu plus. Le parc des merveilles Wonderland, 280 000 entrées, donc il a dépassé le million d'entrées en France, ce qui est plutôt pas mal pour un film qui n'a pas du tout été marketé. Je crois qu'il a même été carrément oublié par les distributeurs, ils n'ont pas envie d'en parler. Mais voilà, quand même, un million d'entrées, c'est pas rien pour un film dont on n'a pas fait la promo. La Malédiction de la Dame Blanche, qui a fait 300 000 entrées en France. Je ne sais pas si tu peux nous dire un mot sur ce film, ou si tu ne sais même pas de quoi il s'agit.
Non.
Ok.
Non, je sais vaguement que. Il me semble que le titre en VO, c'est The Curse of Lorona, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais. Bah, ça sent le film d'horreur un peu trop classique.
En parlant de film d'horreur,
terrible.
Film d'horreur, il y a Cimetière qui est quatrième avec 305 000 entrées pour un total de 690 000 entrées. Ça reste un bon score, hein, 300 000 entrées en France pour sa deuxième semaine d'exploitation. Plutôt un bon résultat pour ce film-là. Tanguy, le retour, on en parle ou pas ?
Non.
Il est revenu sur nos écrans. 340 000 entrées pour sa deuxième semaine d'exploitation, ça fait 800 000 entrées au total. Alors clairement, le potentiel de Tanguy était plus élevé. Je pense que si Tanguy, et je pense qu'on avait déjà un peu parlé, si ce film était sorti quelques années auparavant, par exemple quelques années après la sortie, genre 4-5 ans après la sortie, pas plus, il y aurait eu un meilleur résultat. Ils ont attendu peut-être un peu trop longtemps entre Tanguy 1 et Tanguy 2. Deuxième film, c'est Dumbo. Alors là, certains seront contents, hein. 410 000 entrées pour Dumbo, bientôt 2 millions d'entrées au total, donc ça veut dire que c'est un succès en France, alors que, on le sait, aux États-Unis ou dans d'autres pays, le film marche nettement moins bien qu'attendu ou que prévu, au point que Disney a jugé que c'était un échec. Il faut dire, avec l'année qu'ils ont, Disney, ils ont intérêt, enfin, je crois pas que ça va avoir un gros impact sur les résultats de l'année, hein. Ils ont encore Star Wars et tout qui arrive, et Avengers demain, donc ils doivent pas trop stresser, mais c'est vrai que Tim Burton aurait peut-être voulu se racheter avec ce Dumbo-là, et faire un gros film, mais malheureusement ce n'est pas le cas, Johnny Depp était pas là, hein. c'est peut-être ça la raison.
Il se rachète quand même un peu, parce qu'apparemment c'est chouette comme film.
Apparemment.
Apparemment.
Ensuite, dernier film, et ça, alors voilà, on était un peu off-radar ces derniers temps pour des raisons différentes, Thibaut et moi, je n'ai pas du tout entendu parler de ce film, After, chapitre 1, de quoi s'agit-il, 890 000 entrées
Alors si j'ai bien compris, si je vois bien ce que c'est une espèce de 50 Shades pour ados. Truc d'amour, la
Donc c'est de la sadomaso
Non, alors je pense pas que ce
dans
soit
une école, quoi.
À ce point-là, mais... Mm-hmm. Mais Ouais, c'est un teen movie un peu osé.
Sex Education, quoi.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Version cinéma.
Mais j'en ai pas entendu du bien, donc...
Oui,
c'est pas bon, ce que ça vaut.
Comme on le sait, hein, parfois, c'est pas très bon, mais ça marche bien, donc c'est pas toujours l'équation, c'est pas toujours correct. 890 000 entrées, du coup, pour After chapitre 1. Bah, si vous avez vu After, n'hésitez pas à nous le dire, hein, sur Twitter et les différents réseaux sociaux. On est toujours curieux d'avoir votre avis sur un film dont on ne connaît pas grand-chose. Mais revenons. Au vif du sujet, revenons un peu à l'essentiel de cet épisode. Avengers Endgame, vous êtes beaucoup à l'attendre ce film. Nombreux d'entre vous ont déjà leur ticket sans doute en main pour aller le voir ce soir, ce mercredi ou encore ce week-end.
Enfin, an. Même ce mardi, hein. Je pense qu'il y a des projections.
Même ce mardi, mais vu qu'on diffuse
il y a souvent des marathons,
l'épisode
oui,
mercredi.
On est mercredi aujourd'hui. Enfin, demain, on est mercredi.
Nous sommes mardi.
Aujourd'hui, on est mercredi.
On va diffuser cet épisode mercredi.
Hier,
parce
on
que...
était mardi, mais aujourd'hui, nous sommes mardi aussi.
Parce qu'il y a un embargo. Forcément, sur Avengers Endgame, on ne va pas diffuser du coup cet épisode mardi. Vous écoutez à partir de mercredi. Avengers Endgame de Joe Russo et Anthony Russo avec bah, le casting qu'on connaît, hein, sauf une partie du casting, bien sûr, parce que si vous avez vu Avengers Infinity War, vous savez que...
Ils sont morts.
Morts, c'est un grand mot, mais en tout cas,
disparu.
Ils sont partis en
non,
poussière.
Non, techniquement, ils sont morts.
Partis en poussière, comme ça.
Ils sont morts.
Dusted, comme on dit en anglais. Mm. Donc, une grosse partie des Avengers sont partis en fumée à la fin de Infinity War. C'était un peu le what the fuck. Notamment, il y avait, on peut le dire maintenant, je crois que ça fait un an, hein, il y avait entre autres Spider-Man qui était parti en fumée.
Black Panther aussi.
Black Panther, donc c'était tous Doctor les nouveaux, hein, tous les nouveaux super-héros. Donc, on se dit, attends, avec... Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça sent mauvais, qu'est-ce qui se passe ? Surtout quand on sait que Tom Holland va tourner le prochain, etc. Il y a Anguille sous roche. Donc on s'est dit, la vraie question que tout le monde se pose, en tout cas ceux qui connaissent l'univers d'Avengers, c'est « Ok, ils ont entre guillemets tué une partie du casting, on ne sait pas comment, mais ils vont revenir. »
Oui.
Voilà, ça avant même de rentrer dans la salle.
Il n'y avait pas de doute.
Voilà, ça avant même de rentrer dans la salle, ça c'est gagné. Par contre, la vraie question c'est est-ce que ça va être décevant ? Est-ce que ça va être oh, on s'est réveillé, c'était un mauvais rêve, ou tu vois, genre un truc vraiment terrible, ou un peu comme Harry Potter, on prend une pendule et on remonte dans le temps et abracadabra, et puis c'est fini.
Je vais pas te raconter tout non, le film, pas comment, le dernier sûr. Plan, c'est une toupie qui tourne.
Tu rigoles ?
Évidemment.
J'ai eu peur pendant 3 secondes. Ah, je me suis dit, c'est parti. Et le prochain Avengers ouais. sera réalisé par Christopher Nolan. Ok.
Non.
Donc. Oui, c'est ça la question qu'on se pose. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont réussir à nous satisfaire ? Est-ce que le film ne va pas être, du coup, en un coup, décevant ? Déjà, tu peux répondre à cette question-ci. Est-ce qu'on se dit « Oh, merde !» Ou bien est-ce qu'on se dit « Ok, c'est bien, tu vas me dire après quel est ton ressenti vraiment profond, mais est-ce que c'est décevant, déjà, d'entrée de jeu, Thibaut ?»
Je reste un peu sur ma faim.
T'es toujours sur ta faim, toi.
Ouais.
Mais de manière générale, tu t'es pas dit « Oh, mon Dieu, c'est vendu, quoi. »
Alors,
faut pas...
Non, c'est pas décevant, okay. Parce que globalement, le cahier des charges est respecté et qu'il y a des très bonnes choses dans l'écriture. Il y a des scènes qui sont vraiment très bien. Mais je trouve que la dernière partie du film est un peu plus faible. Il y a des choses dont on se fout un peu. Le combat final, globalement, j'en avais un peu rien à foutre. Parce que tu connais à peu près l'issue.
Ça, c'est un peu le même problème avec tous les films Marvel. Hein, j'ai envie de dire, quand tu vas voir Captain America... Captain Marvel, pardon. Tu sais bien que la fin du film, elle va te défoncer la gueule à plusieurs personnes, et puis voilà, on va avoir un générique de fin avec de la musique rock.
C'est ça.
C'est souvent la même chose.
C'est exactement ça.
Mais donc, c'est une formule, quoi.
Ouais, c'est une formule qu'ils aiment bien utiliser de film en film, et qui leur permet de rester dans quelque chose d'assez sécure. Contrairement à d'autres qui essayent parfois de prendre des risques... sans que ça fonctionne pour autant. Enfin bon, ici en fait dans Avengers, voilà, Thanos a détruit à peu près la moitié de la planète, enfin des êtres vivants, pas juste des êtres humains, mais des êtres vivants de la planète. Et donc on retrouve notre équipe complètement aux abois. Il y a Iron Man qui est perdu tout seul dans l'espace dans son vaisseau là. Et puis les autres sont dépités sur Terre.
Ça, c'est ce qu'on a vu un peu dans les bandes annonces. Hein.
Ben ouais, mais plus rapidement dès le début, Iron Man arrive à retourner sur Terre parce que suffit de siffler. Captain Marvel va chercher le vaisseau et puis elle le ramène pépère.
C'est vrai que ce serait un peu chiant qu'il reste tout le film dans sa bulle.
Mais du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que même si la scène où Iron Man pense que c'est la fin. Elle est bien foutue, mais on te casse tous les effets très vite. Du coup, ça fonctionne pas tellement, en fait, tu vois.
Bah, disons que si tu commences le film au bout de 20 minutes et qu'il y a une scène où il dit « je pense que c'est fini, on pourra rien faire », tu dis « bah, coco, j'ai encore 2h20 de film, donc il va se passer quelque chose ».
Évidemment, évidemment. Mais bon, voilà, dramatiquement, ça fonctionne à moitié, ça qui est un peu dommage. Et c'est comme ça pour tout. D'un côté, ça fonctionnait comme ça pour Infinity Wars, même si c'était un très très bon divertissement, mais tu sais bien que les mecs vont pas mourir. Enfin, ils sont morts, mais tu sais qu'ils vont revenir à un moment ou à un autre. Ils installent des choses qui savent que personne ne va croire, parce que... Voilà.
La manière dont ils ont présenté les films, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Infinity Wars, c'est un peu la soirée, tu vois. Et Endgame, c'est l'after, tu vois, c'est le lendemain matin où tu te réveilles.
C'est un peu ça.
Et tu te dis, ah merde, tu vois.
Ouais.
Et c'est un peu ça, ils ont dit, ouah, putain, tu sais quoi, Infinity War, on va mettre Black Panther, on va aller à Wakanda, on va faire des trucs, on va dans tous les coins. Ça va être hyper dynamique, on va voir tout le monde, Doctor Strange, Spider-Man et tout. Et puis, boum, le deuxième, on a pris une décision avec le snap à la fin du premier, de forcément aller dans un truc un peu plus dramatique, un peu plus sombre. Ouais. Changement de ton, changement du goût d'ambiance, c'est pas spécialement la même fête. Hein.
Non, clairement. Après, alors, il y a Avengers, ici, Endgame se diffère quand même pas mal des précédents, dans le sens où c'est le film de Captain America et d'Iron Man.
Les bros.
Bah oui, mais oui et non, parce que dès le début, quand Iron Man revient, il fait clairement comprendre à Captain qu'il était pas là pour lui. Voilà, ils sont pas battus ensemble. Il y a toujours des petites frictions qu'on connaît,
notamment des précédents de Civil War. Oui.
Évidemment. Donc c'est pas l'amour fou, mais ces personnages ça se voit. Et donc frères, c'est quoi, un peu un film de réconciliation pour eux deux, ce qui est assez intéressant. Et puis bon, ce sont des comédiens qui pour certains sont sous contrat avec Marvel depuis plus de 10 ans, donc c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête là avec ce film, ça peut être émouvant de voir certaines scènes se dérouler, de voir ces personnages interagir entre eux. Donc il y a clairement des choses très très réussies dedans, hein. Et on le doit surtout plus aux personnages que ce qui se passe, enfin que à ce qui se passe à l'écran. Donc évidemment c'est une force d'avoir des personnages que le public connaît maintenant par cœur et suit depuis des années. Donc ça c'est très positif. C'est juste parfois dommage que le scénar ait un petit coup de mou à certains moments, quoi. Que la mission générale va être de retrouver les pierres d'infinité afin de lancer le processus inverse de ce qui s'est passé dans Infinity Wars. Donc en gros, de faire en sorte que tout le monde revienne.
C'est l'inverse d'Infinity Wars, en gros.
Oui, plus ou moins.
C'est un peu le film à l'envers.
J'irai pas jusque là, mais on va dire que sur le principe, l'idée c'est de défaire ce qui a été fait.
Ouais, ok.
Voilà. Donc leur mission c'est de chercher les pierres partout.
C'est un peu comme si Harry Potter devait aller remettre les Horcruxes de Voldemort un peu partout.
Plus ou moins, c'est un peu ça.
Ok.
Et donc, pendant la plupart du film, les Avengers vont être séparés parce qu'ils ont chacun une pierre à aller chercher. Ils vont pas tous chercher toutes les pierres en même temps.
Il faut être efficace dans la vie.
Mm-hmm. Et donc voilà, en gros, c'est ça qu'ils doivent faire. Ce qui va être compliqué.
Quel parce parallèle
qu'il faut,
du coup
il faut qu'il y ait des héros qui aient des capacités tant physiques que mentales pour trouver le processus afin de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour retrouver.
D'accord.
Tout ça.
Donc c'est plutôt un film un peu d'énigme aventure où tu te dis bon, on a quatre bâtons, il faut aller les mettre au bon endroit et il va y avoir des épreuves entre temps, quoi.
Il y a un peu de ça. Et voilà. Puis le dernier tiers, un peu moins du dernier tiers.
Là ça pète, quoi.
Grosse baston. Avec le grand méchant du film. Et voilà.
Voilà, etc. Ok, ça c'est et pour donc, le contexte de l'histoire.
Ouais.
Du coup, vu qu'on a, entre guillemets, rasé la moitié du casting dans le précédent. Il y a moins de monde, on part dans des quêtes individuelles ou en binôme, sans doute. C'est plus intimiste, c'est plus une aventure entre petits groupes, quoi. Ça change un peu d'ambiance par rapport aux Avengers précédents.
Complètement. Oui et non, parce que je trouvais que c'était quand même bien géré dans Avengers, dans Infinity Wars.
Il y avait pas mal de quêtes différentes, oui, c'est
ouais,
vrai.
Ouais, il y avait des arcs un peu séparés, donc des personnages qui étaient certes éparpillés partout, mais aussi en plusieurs groupes, donc... Ça fonctionne assez bien. Ici, ça fonctionne toujours aussi bien, si ce n'est qu'il y a des personnages qui sont toujours en vie, dont on se fout parfois un peu, quoi.
Okay.
Style Clint Barton, effectivement.
Sorry, Jeremy Renner.
C'est vraiment le tout début du film. Ça aurait pu être dans Infinity Wars, d'ailleurs. Mais vu qu'il n'était pas dans Infinity Wars, voilà, il fallait le mettre ici. C'est que toute sa famille est morte, sauf lui, quoi. Sa femme, ses mômes, ils sont tous morts, donc... Lui, il va se lancer dans une petite mission.
Il chaud patate, lui.
Ouais.
Du coup.
Mais globalement, on en a un peu rien à foutre de Hawkeye.
Oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu avant, mais.
C'est ça. Donc, c'est un peu compliqué d'aller.
Et donc, si
de se lancer dans des missions vraiment complètes avec lui, en binôme avec la Veuve Noire, quoi. Tu vois. Un autre personnage qui certes, elle est présente dans pas mal d'épisodes, mais. On en a un peu rien à voir.
On n'a pas encore vu son film solo, en tout cas.
Bah ouais.
J'ai une question, du coup. Si le film est plus intimiste, tu l'as dit un tout petit peu en introduction de cette critique, on insiste plus sur les acteurs, sur leur jeu éventuellement, notamment le duo Chris Evans et Robert Downey Jr. Donc, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de scènes pour les acteurs que des scènes à effet que dans le premier on laisse un peu plus de temps aux acteurs.
Oui, clairement. Oui, alors le film est très dramatique avec pas mal de scènes de conversation entre les personnages, etc. Il y a aussi beaucoup d'humour, plus que ce que j'attendais, et que plus que dans Infinity Wars, mais ça, c'est pas très compliqué, il n'y a pas énormément d'humour dans Infinity Wars, un peu moins que dans les Marvel classiques. Mais ici, il y en a vraiment pas mal de vannes. Et donc, il y a plusieurs tons, mais qui conviennent parfaitement au film. Donc, c'était plutôt bien foutu à ce niveau-là.
Et donc, dernière question pour Avengers Endgame, parce que voilà, on ne peut pas trop rentrer dans le sujet non plus. Est-ce que tu vois bien la transition, la fin du chapitre de l'univers cinématographique Marvel, de dire voilà, Avengers Endgame a été vendu comme étant le truc qui va changer l'univers Marvel. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Est-ce que tu t'es dit, ok, à partir de maintenant, il y a une nouvelle vague, il y a un changement évident?
Oui.
Outre la disparition de certains personnages à la fin du film, sans doute, hein, je présume.
Bon, pas sans doute, oui.
Oui, ça, je pense que tout le monde l'attend un petit peu.
Effectivement, mais... y a des personnages, on s'attend à leur mort depuis un moment déjà. Je crois que dès... avant même Avengers 3, je pense qu'on parlait déjà de la mort de certains.
Oui.
Pour certains, enfin, elle est là.
D'accord. On rentre pas plus dans les spoilers.
On rentre pas plus dans les détails, non. Mais oui, il y a des personnages qui meurent et comme on l'attend depuis très longtemps maintenant, Endgame marque la fin d'un cycle. Il va y avoir des choses nouvelles, des nouveaux personnages. Et c'est pas plus mal parce que voilà. Il fallait
rafraîchir
pas trop
tout ça, quoi, hein, c'est ça. Faut pas tomber dans Walking Dead saison 22, quoi.
Exactement.
Faut
mais bon, si on pouvait arrêter de montrer trop certains personnages, ça serait bien. Captain Marvel.
Bah quoi? Elle vient d'arriver.
Bah ouais, mais c'est elle est inintéressante. C'est ça qui est dommage.
Ouais, parce qu'elle peut tout faire, quoi.
Exactement.
Et on la voit beaucoup dans ce film-ci.
Rien pire qu'un personnage invincible, quasiment.
C'est vrai qu'elle a été présentée très récemment. Est-ce qu'on la voit beaucoup dans ce film-ci? Est-ce qu'elle joue vraiment un rôle?
Pas tellement. Elle sert de ta gueule, c'est magique au début, là, où elle va récupérer Iron Man, et puis elle se pointe au combat final, et c'est à peu près tout, quoi.
D'accord. Parce que beaucoup de gens disaient que ça allait être la pièce maîtresse du film, mais ça c'est encore un autre.
Non.
Ok. Très bien.
Mais pas plus. J'allais dire encore une déception. Non. Moi ça m'a arrangé. Moins on voit Captain Marvel, mieux je me porte.
Ok.
Et dernière petite chose, il n'y a pas de scène post-générique.
Ah. Donc t'as attendu.
J'ai attendu longtemps. J'attends.
Tu t'es fait un Don't Stop Believe. On en tient trois fois d'affilée.
Et non. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant pour revenir un peu quand même vraiment au contenu du film, c'est que comme ils partent à la recherche des différentes pierres de l'infinité, c'est qu'ils doivent retourner dans le passé. Et donc, on revoit certaines scènes qu'on a parfois vues dans d'autres films Marvel. Ça a l'air de te saouler déjà.
Ça a l'air cheap, non, hein, ça, quand même, d'aller faire un petit montage, un peu jump cut.
Ouais, mais non. T'as pas l'impression d'avoir la scène telle quelle.
Là, ouais.
Non, t'as pas l'impression d'avoir la scène telle quelle. C'est assez bien foutu. Donc, du coup, ça, c'est assez intéressant. Ça fonctionne bien. Tout comme il y a pas mal de personnages qui revoient des personnages qui ont déjà disparu de leur vie. Des pères, enfin, tu vois, des
donc,
proches.
On voit Andrew Garfield, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont remontés un peu trop en avion. Avec Jamie Foxx.
Là, non. Mais okay. Oui, on revoit certains personnages qui sont parfois morts depuis longtemps. Et ça, c'est... Non, ça fonctionne bien. Toute la partie vraiment dramaturgie du film est très réussie. C'est juste parfois un peu long. Parfois, ça raconte pas grand-chose. Et moi, je trouve que les scènes d'action, au final, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans les Marvel, quoi.
Ouais, on s'en lasse un petit peu, malheureusement. Dernière question, le film fait 3 heures. Nécessaire ?
Dans l'ensemble, ça va. Un poil trop long, quand même. J'ai pas vu le temps passer,
c'est pas mal, quand même. Mais si tu vois pas le temps passer, c'est un exploit, hein, pour 3 heures.
Mais... Bah, disons que il pourrait gagner un peu de temps sur certaines choses qui sont parfois un peu plus futiles. Voilà.
Ok. De manière générale, Avengers Endgame, tu lui donnes combien?
Excellente question.
Tu te rappelles ce que tu as donné à Infinity War, d'ailleurs?
Non. Non, mais là, comme ça, j'ai envie de te dire que si j'ai donné 3 étoiles à Infinity
Wars...
Ah, mon
avis, t'avais 4, mec. Je pense qu'on était très très chaud quand on est sorti de cette projection ensemble.
C'est vrai que j'étais très chaud, mais j'ai sans doute pas donné 4. Donc, à mon avis, j'ai donné 3, donc je vais donner 2 ici, Endgame.
Ok.
Qui est bien. Voilà, on est content que ce soit la fin pour certaines choses. On est content que ça augure des choses nouvelles dans le futur. Mais j'ai pas été plus pris que ça. Je passais un bon moment, mais voilà, c'est tout.
Oui, bah oui, c'est un peu spécial. L'univers Marvel, etc. C'est un univers qui moi m'a jamais, j'ai jamais été fan, jamais attendu tous les films Marvel avec une impatience folle parce que je trouve que ces films sont très moyens de manière générale. C'est plus des produits que des films. C'est facile de dire ça. Hein. On peut dire tous les films sont des produits, oui. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est vraiment très, très prononcé, je trouve. Et l'intérêt dramaturgique n'est pas très élevé, puisqu'on sait déjà d'avance que les gentils sont les gentils, les méchants sont les méchants. On pourrait dire pareil sur un Batman. Hein. Je veux dire, voilà, Dark Knight, c'est pareil. Mais l'approche est différente, l'ambition du film est différente. Ici, on est beaucoup plus dans un truc édulcoré. Et ça me convient un peu moins. Mais voilà, j'étais impatient de voir Infinity War, je l'ai vu avec toi, et pour Endgame, honnêtement, j'aurais pu, mais je n'ai pas été le voir. Donc c'est pour te dire que j'ai déjà l'intérêt qui a diminué. Notamment parce que j'ai vu Captain Marvel, et que pour moi, ça m'a refroidi. Le film m'a pas donné envie de voir celui-ci, quoi.
Non, c'est normal.
Voilà. Passons tout de suite à d'autres films, des films plus, certains diront chiants, d'autres diront d'auteurs. Le Festival de Cannes a annoncé sa compétition officielle sur la croisette où tu iras.
C'est quoi ça, le Festival de Cannes?
Un petit festival qui est tombé un peu maintenant, tu vois. Au début, il était considéré comme le plus grand festival du monde. Maintenant, il est un peu dans le 5e du panier. Mais nous, on l'aime. Nous, on aime. On aime beaucoup le Festival de Cannes. Il y a quand même des films qui... On en a parlé toute l'année, hein, des films du Festival de Cannes. On a eu Capharnaüm qui est sorti. On a eu plein d'autres films qui sont revenus dans notre figure un petit peu.
Le Festival de Cannes est aussi fort que... toujours.
Je trouve que le Festival de Cannes a une sélection atypique et de plus en plus internationale. Ça, c'est très chouette. Plein de films de différents horizons. Et c'est vrai que c'est souvent des bonnes surprises. Parfois, on est un peu surpris. On se dit, oh, c'est quoi ce truc? Mais quand les films passent un peu, le temps passe, on en revient toujours en disant, tiens, c'est quand même pas mal ce film hein, que j'ai vu à Cannes. Et donc, en général, ils ratent rarement leur coche. La compétition officielle est composée de... une chier de films cette année. J'ai l'impression qu'il y en a pas plus qu'année passée.
Là, 19, je pense. En général, il y en a entre 18 et 22, ça dépend. Mais en général, c'est 20.
Alors, on y va tout de suite. Premier film qui sera montré, c'est The Dead Don't Die de Jim Jarmusch.
Qui est en compétition. Hein.
Il est en juste compétition. Ah non, c'est les compétitions officielles. Hein. On fera après un certain regard et les autres.
On dit pas la compétition officielle, on dit juste la compétition.
La sélection.
La sélection officielle.
C'est la sélection officielle.
Un certain regard fait partie de la sélection officielle. C'est comme vrai. Les films hors compétition.
The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec un casting XXXXL avec encore Adam Driver qu'on reverra à Cannes, peut-être tu le reverras encore à la sortie d'Ascenseur, on ne sait pas qui sait de Jim Jarmusch, film assez surprenant pour un réalisateur vraiment d'auteur, on peut le dire, hein, qui a fait des films oui. Patterson entre autres, qui là nous fait un film de zombies, alors avec son style bien sûr, avec son humour, avec son côté un peu
non, c'est plus de vampire.
Vampire ? Ok, ouais. J'ai eu l'impression que c'est zombie.
Il avait déjà fait un film de vampire qui était Only Lovers Left Alive.
D'accord.
Avec Tilda Swinton qui était très bien. Ici, je suis assez curieux.
Ah oui.
Alors j'ai un peu peur, enfin j'ai très hâte de voir le film, mais j'ai un peu peur que le festival n'ait pris le film que parce que c'est Jim Jarmusch avec son casting fantastique, quoi, tu vois.
Ça, c'est souvent la question qu'on peut se poser hein, au festival de Cannes.
Je vais me poser la question de savoir si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'il l'aurait pris ou non.
Bah, y a deux questions au Festival de Cannes. Y a certains réalisateurs ont la carte membre.
Oui.
Parce qu'eux, ils sont tout le temps invités. Enfin, ils peuvent faire n'importe quoi, ils vont être invités. et il y en a d'autres où c'est vrai que tu dis, ils ont peut-être plus invités pour le tapis rouge que pour le film. The Dead Don't Die, c'est pour un premier film d'ouverture assez boom, hein, on va le dire, qui ça démarre en force. Reste à voir ce que ça va donner. C'est vrai que ça peut être un film un peu hommage. On va voir ce que ça donne. Deuxième film, c'est Douleur et Gloire de Pedro Almodovar qui ne cesse pas d'aller au Festival de Cannes. Lui c'est clairement carte membre.
Ah oui, oui.
Lui, c'est clairement carte membre.
Ouais, Jarmusch aussi. Hein,
oui, c'est vrai.
Bah, alors, cette année, il y en a beaucoup qui. Dont on dit qu'ils ont la carte. Hein. Ouais, bon, ça, c'est un détail. Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais bon. Almodovar, oui, il est toujours là en compète, en général. Il n'a jamais rien gagné. Je ne sais pas s'il gagnera un jour, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Almodovar au Festival de Cannes.
Avec Penelope Cruz, cette fois-ci encore ou...
Je pense.
Je pense que oui. Je pense que oui.
Il est
je
ne
sais
déjà
pas
sorti
si Javier Bardem est là, mais... Ah, il est déjà non, sorti.
Il est déjà sorti en Espagne.
C'est étrange, ça.
Non, c'est toujours accepté que le... Et c'est, le cas, c'est souvent le cas des films d'Almodovar.
Pardon.
Que les films... peuvent être sortis dans leur pays d'origine. Mmh. Donc ça, c'est accepté. En fait, à Cannes, en général, ils exigent l'avant-première mondiale du film, mais ça peut être une première internationale. Donc si le film est sorti que dans son pays d'origine, après, ça reste une première internationale à Cannes. Donc,
d'accord.
Voilà.
Deuxième film, c'est... Enfin, troisième film, pardon. Le Traître de Marco Bellocchio.
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 Bellocchio. Il y a deux C.
Bellocchio. Bellocchio. C'est bien aussi. Bellocchio.
Un autre habitué du festival, Marco Bellocchio. Donc, oui, je suis assez curieux de voir ce film aussi.
Après, l'année passée, il y avait Under the Silver Lake. Maintenant, il y a The Wild Goose Lake, décidément. Film chinois de Diao Yinan.
Que je ne connais pas.
Que tu connais pas. Donc, du coup, ah, une surprise, une nouveauté. Cinquième film, Parasite de Bong Joon-ho. Lui.
Ben, Bong Joon-ho, c'est à lui qu'on doit le premier film Netflix à Cannes, quand même.
Tout à fait. Okja.
Je suis évidemment très très curieux de voir son nouveau. Hein, mm-hmm. Donc, je pense que c'est un des films de la compétition que j'attends le plus.
Les incontournables sont là hein, cette année.
Bah bien sûr.
Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus. Jean-Pierre et Luc Dardenne pour le jeune Ahmed. Ouh, tout un programme.
Ouais. Écoute, je vois le film demain.
Tu enfin, vois avant
aujourd'hui.
D'accord.
Enfin, aujourd'hui, hein, mercredi.
Oui, c'est ça.
Je suis assez curieux, comme tous les films des frères Dardenne. Donc,
comme tous les frics de Luc Dardenne, pardon.
Oui,
c'est ça. Ok. Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin.
Bah Arnaud Desplechin, c'est un réalisateur assez particulier qui a un cinéma très singulier. Donc, en général, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis plutôt client.
Oui. C'est quoi le dernier film qu'il avait fait avec les masques là ?
Les fantômes d'Ismaël, c'était ça son dernier
film. Ah oui, non, c'est pas lui alors. Ok, d'accord. Je me confonds avec quelqu'un d'autre.
D'accord. Je ne sais pas avec
c'est qui. C'est pas Dupontel ? Un film avec des gens qui avaient des masques comme ça.
Ah oui, c'était Albert Dupontel ça.
Oui, oui, c'est ça, Dupontel. Okay. Oui, rien à voir, Desplechin.
Oui.
Qui en effet avait fait Le fantôme d'Ismaël. Atlantique de Mati Diop, un film sénégalais, enfin français sénégalais, premier long métrage, donc boum.
Il est même franco-belgo-sénégalais, parce qu'il est produit par Fracas en Belgique. Un premier film, effectivement.
Pas mal,
écoute.
Hein.
Un film sénégalais, pourquoi pas donc,
Bah oui, c'est ça qui est bien avec le Festival de Cannes.
Oui, bah oui ça change.
Tout à fait. Mathias et Maxime de Xavier Dolan. Mais que fait-il là, lui hein Xavier Dolan qui connaît la gloire avec son film J.F. Donovan. Là.
Oui, la gloire, je sais pas.
La gloire est relative. Hein, ouais. Il s'est fait un peu descendre. Là.
Bah, c'est pas, même pas qu'il s'est fait descendre, c'est qu'il est sorti nulle part, sauf en France. Quoi.
Voilà.
Donc, ouais, dommage.
Et que Kit Harington ne veut pas en parler en interview.
Ah non Ah, ça se point là.
Ouais, ça se point là.
Ah, dommage.
Et du coup, c'est Xavier Dolan qui a dû faire toutes les interviews françaises. Lui qui déteste les interviews. Ouais.
Pas évident, hein.
J'ai envie de dire quand il te fait abandonner.
Ouais,
ouais.
Ah, écoute, bon. C'est comme ça, hein.
Tout bah, à fait.
Et donc, évidemment, je suis très curieux de voir le film de Xavier Dolan. On aime Xavier.
On aime Xavier. Little Joe de Jessica Osner, autrichien, on ne sait pas, c'est ça le plaisir du Festival de Cannes. Sorry We Missed You de Ken Loach, on ne sait pas non plus qui c'est Ken Loach, hein, c'est ça, c'est
bon, bah,
Looking for Ken Loach.
Deux petits, deux petites palmes d'or quand même, comme les Dardennes, et comme qui d'autre? Est-ce qu'il y en a un autre qui en a gagné deux qui est ici Non, je pense que ce sont les deux seuls qui ont à chaque fois gagné deux palmes d'or qui sont en compétition cette année. Ken Loach qui est produit par les Dardennes d'ailleurs. Hein. Oui.
Comme ça, ils ont qu'à acheter juste un ticket dans l'hôtel deux semaines à la Croisette. Ils ont deux chances de gagner quelque chose.
C'est ça.
C'est ça. Donc, ils ont tout compris. Les Misérables de Lajli, hein, un film français, premier long métrage. On ne sait pas. Vous en dire plus en ce moment-ci. Même si je doute fort que ce soit une adaptation live des Misérables, encore une fois. Une vie cachée, Hidden Life de Terrence Malick. Encore un inconnu du Festival de Cannes.
J'attends ce film avec tellement d'impatience.
De quoi parle-t-il ce film ? Tu le sais un petit peu ou...
bah, c'est le retour de Terrence Malick à quelque chose de plus narratif.
Ok. Ça fait du bien.
Je pense qu'il est question d'Allemagne nazie. Genre, je ne sais plus exactement quelles années. Si c'est avant la guerre ou si c'est pendant la guerre. Donc, petite surprise.
Des informations sous le casting.
C'est avec,
ou...
bah, avec Matthias Kuhnertz, avec, avec Jürgen Prochnow, avec Bruno Ganz, avec plein de gens qui sont morts.
Oui, ça, c'est... avec, en tout cas, c'est pas mal.
Merde, comment il s'appelle l'acteur suédois là ? Mikael Nyqvist aussi, qui est décédé.
Mais décidément.
Voilà, très très hâte de
c'est
voir.
C'est un film maudit. Bakuro de Kleber Mendoza.
Bakuran.
Pardon, film brésilien.
Très hâte de voir ce film aussi, parce que j'avais adoré le précédent de Kleber
Mendoza.
Mendoza Filho.
Si, il faut que tu aies bon.
que j'avais eu la chance de rencontrer ici.
Après Gomorra, il y a La Gomera, film roumain de Corneliu Porumbiu. On ne sait pas du tout de quoi il parle. À mon avis, ce n'est pas le même sujet. Mais bon, c'est clair que c'est toujours intéressant, le festival de Cannes. On continue Franky de Ira Sachs, un film américain, donc oui, des États-Unis.
Avec Jérémy Régnier dedans.
Ah, bah dis donc, c'est pas mal.
La Belgique est partout.
What's up? Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, français.
Ben oui, et tout ce que fait Céline Sciamma est très bien, donc évidemment que tout le monde a très envie de voir ce film.
It Must Be Heaven, un film palestinien de Elia Souleiman.
Tout à fait.
Tout à fait. Et dernier film en compétition officielle, Sibyl de Justine Triet.
Triet. Avec Virginie Efira.
Efira, voilà.
Ben oui.
De nouveau, un beau tapis rouge en perspective.
Oui.
Pas mal de films intéressants. À l'heure actuelle, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, à part le titre et les gens qui sont derrière. Mais en tout cas, on a hâte de vous en parler. Thibaut vous en parlera notamment sur cinenews.be, notre site partenaire pour l'événement, puisque je ne serai pas sur place pour faire une belle émission avec Thibaut. Malheureusement, j'aimerais tellement être avec toi là-bas.
Désolé pour toi.
Aïe, 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 aïe. Ce sera l'année prochaine.
Ouais, je te raconterai.
Tu me raconteras le dortoir et tout.
Dors-toi,
non, c'est un peu plus glam que ça.
Hein.
On passe tout de suite au deuxième film de la semaine, Mid-90s. On va en parler brièvement. Film de Jonah Hill, où il a voulu un petit peu, avec Lucas Hedges notamment, il a voulu retourner un peu dans le Los Angeles des années 90, hein, le Los Angeles de son enfance à lui, où on va suivre un jeune Stevie, 13 ans, qui a du mal à trouver sa place entre sa mère qui est absente et un grand frère un petit peu caractériel. Et il va tomber amoureux de quelque chose d'externe. Souvent, quand on a un problème interne dans la famille ou quand on aime bien un peu se rattacher à quelque chose d'externe, et dans son cas, ça va être une bande de skaters, tu vois, l'époque des Vans, l'époque des chaussures, tu vois, les grosses chaussures. Tu te rappelles encore de
les Globes?
Les Globes, ouais, je me rappelle. J'avais des Globes, je pense. Bah,
pareil, j'étais tout fou avec mes Globes.
Alors que je faisais absolument pas skateboard. J'ai fait une fois le skateboard, je me suis foulé le poignet. Et donc, du coup, voilà, il passe un été avec. Avec une bande de skateurs, l'adolescence, l'intégration, les fausses idées, toutes ces choses-là, c'est ce dont parle le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette espèce de petite madeleine de Proust de la part de Jonah Hill ?
Plutôt sympathique, plutôt sympathique. Il y a clairement tout le côté nostalgie qui est là. Parce que bon, c'est quand même les années dans lesquelles on a grandi, nous, donc ça fonctionne. Même si on n'a pas vécu à Los Angeles.
Oui.
On peut quand même globalement s'identifier
le rap américain,
à ses personnages. Donc, c'est assez particulier de revoir ces années comme ça. C'est vraiment une chronique, effectivement, plutôt d'un été. Tu vois ce jeune gars, dont je ne sais plus du tout le prénom du personnage, mais enfin, soit, qui va un peu... il va vivre un peu sa vie tout seul. Parce qu'effectivement, sa mère n'est pas souvent là, son frère... il est difficile et puis il est quand même un peu plus âgé, donc ils s'entendent, c'est pas le grand amour entre les deux, et donc voilà, il va errer un peu tout seul, il va trouver des gens, il va aller faire du skate avec eux, ils vont faire un peu des conneries, ils vont
fumer un déus,
se mettre à fumer un peu, ils vont découvrir plein de choses ensemble, ils vont aller faire des soirées. Et donc, quand t'as 13 ans, tu découvres aussi un petit peu...
La gueule de bois, toutes ces choses-là.
Oui, mais...
Les blackouts.
Tu découvres aussi un peu ta sexualité. Donc tu fais un peu le kéké, hein, genre, j'ai bu une bière, machin. Alors qu'à 13 ans, tu tiens absolument pas. Enfin, soit... voilà, il y a pas mal de choses comme ça.
C'était une belle époque. On avait besoin d'une seule bière pour être bourré, c'était un autre concept. Hein. C'était plus économique.
C'est très économique.
Oui.
Et puis, le tout est... Alors... Dans mon souvenir, c'est une image un peu carrée quand même dans le film, mais je me trompe peut-être complètement, parce que ça fait quelques mois que je l'ai vu, je t'avoue. Mm-hmm. Je pense que je l'ai vu au mois de novembre ou décembre, et j'en ai vu des films depuis, des centaines. Donc,
sélection du bif, oui.
C'est ça que je pensais.
Il n'y a pas de film avec des skateurs
tueurs. Je suis plus certain que le format est carré, mais en tout cas, c'est un format, si pas carré, pas loin. C'est un format un peu différent de ce qu'on voit d'habitude.
Un format Instagram.
Oui. Non, quand même pas. Mais il y a une superbe photo qui est très cool, qui remet complètement dans l'ambiance des années 90, des années 90, devrais-je dire.
Le public, oui.
Une très belle BO. Pas mal de morceaux de rap, évidemment. Ouais. Beaucoup de rap.
Bah, Los Angeles, années 90.
Mais du rap assez, assez cool.
Assez gangster.
Je suis pas très rap, mais ça m'a bien plu. Donc voilà, c'est vraiment un...
Une pastiche.
Non, c'est pas un pastiche.
Non, mais une petite pastille, une petite gélule des années 90 que tu vas prendre plein la face.
C'est ça, c'est un moment de vie.
Pas une pastiche, non.
C'est un moment de vie qui dure deux mois, quelque chose comme ça, où tu vois un gosse qui essaie de découvrir, mais qui en même temps, il n'est pas vraiment lui quand il est avec les autres gars, tu vois. Il se donne un peu un genre.
Mm-hmm.
Parce que bah, pour être accepté, il faut te montrer d'une telle façon.
Faut fumer le joint, voilà. Faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire.
Voilà, donc.
On peut se mentir à soi-même, quoi.
Il est question de personnalité, de découverte, des 400 coups, clairement. C'est un bel extrait de vie. Réussi parce que là on parle du film, mais c'est Jonah Hill qui l'a réalisé.
Mm-hmm.
C'est un acteur qui joue absolument pas dans ce genre de film.
Non.
Donc c'est parfois, ça pourrait être un peu surprenant de le voir réaliser quelque chose comme ça, mais c'est pas si étonnant que ça au final quand on voit le résultat.
Mm-hmm.
Tu peux retrouver Jonah Hill derrière, tu vois. Tu dis, ah, effectivement, c'est plutôt. Ce gars que j'ai vu dans pas mal de films, je suis pas étonné de voir que ça, ça et ça, c'est son truc, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est cool. Le jeune acteur Sonny Selyukh est vraiment top. Il porte tout le film, il est tout le temps là, il est génial. Catherine Waterston, qu'on connaît donc plutôt de, j'allais dire de Prometheus, non pas de Prometheus, de sa suite, Alien Covenant et des Animaux Fantastiques. Elle est très très bien dans le rôle de la mère. Lucas Hedges, bon, il est bien.
On ne le présente plus.
Oui, non, là, il en a fait un paquet.
Hein, oui, mais... dernières années. Il a bien bossé, le mec. Donc voilà.
Voilà, c'est un très chouette casting, un très chouette film, un bon petit 2 étoiles.
Un bon petit 2 étoiles. Je le sentais venir le 2 étoiles de Mid-90s de Jonah Hill. Ça ne m'étonne pas, vu le sujet. Hein, voilà, c'est peut-être pas un film avec, comme on dit, beaucoup de dramaturgie ou autre, mais c'est un film qui va vous plonger dans cet univers-là des jeunes ados dans les années 90. Qu'est-ce que ça représente, les années 90, pour les ados? Et l'impact du skate, puisque c'était une grande passion de Jonah Hill, qui, lui non plus, n'était pas un bon skateur, mais qui faisait semblant. Donc voilà en quoi c'était personnel pour lui. On retourne un peu au Festival de Cannes, en essayant d'être un peu plus...
Toi pas, mais...
Non, mais on y retourne genre dans le programme. Ouais. Pour parler des films qui sont dans la catégorie Un certain regard. Un certain regard qui a une bonne pelle de films notamment. On ne les connaît pas tous. Invisible Life de Karim Aynouz. Voilà.
Ah oui, pardon, je ne regardais pas au bon endroit.
Tu regardes au bon endroit.
Oui, ouais, non, je regarde là où t'as fait une connerie dans la conduite.
Okay. On parle du spoiler ou pas?
Donc, tu l'as effacé.
Je l'ai effacé, il n'est plus là, il n'existe pas. Donc Invisible Life de Karim Aynouz, Beanpole de... Je ne vais pas y arriver.
Kantemir Balagov.
Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Ella Gobé Mervelec.
Je suis assez curieux de voir ce que ça donne, Zabou Breitman en réalisatrice quand même.
C'est particulier. Est-ce que c'est un rapport avec les
cerfs-volants
de Kaboul?
Non, je pense pas.
Il y avait des kitesurfers.
Oui, je vois.
Rien.
Non, je pense que c'est aussi un bouquin. Je me demande si c'est pas un truc du style de Yasmina Kadra ou quelque chose comme ça. Vu le titre, ça doit être quelque chose du genre, tu vois.
La femme de mon...
Yasmina Kadra, boum.
Ben voilà.
Allez, voilà.
Bim. La femme de mon frère de Monia Chokri, premier film.
C'est une actrice québécoise qu'on a vue dans quelques films de Xavier Dolan. Mais voilà, réalisatrice maintenant, pourquoi pas.
Elle s'essaye. The Climb de Michael Covino.
Ça va encore être un truc à la frissolo. C'est difficile de dire ce que c'est.
Ouais, pourquoi pas. Jeanne de Bruno Dumont.
Ah mon Dieu, rien que d'y penser, j'ai déjà les poils qui se hérissent, quoi.
Tu n'iras pas voir ça.
Non, j'irai pas voir.
Un certain regard, c'est
la
catégorie.
Suite de son Jeannette. Tu vois Jeannette,
non.
Sa comédie musicale métal sur Jeanne d'Arc.
Ok.
Donc les personnages, ils étaient. Et t'avais de la musique métal derrière, tu vois. C'était,
bon, je vais aller voir ça.
Très
non.
Spécial. Okay. Et clairement pas ma cam.
Viendra le feu de Olivier Lax. Ok, Arde, pardon.
Oui.
Super.
À tes souhaits.
Chambre 212 de Christophe Honoré. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Écoute, je sais pas. Moi, je suis pas très Christophe Honoré.
Voilà, il était dans la sélection officielle l'année passée. Maintenant, ouais. Il passe. Et...
Non, il était en compétition. Arrête compétition de dire. Officielle. Faut arrêter de dire sélection officielle juste pour la compétition. Non, c'est non, tout et la sélection officielle.
Oui, ce qui fait qu'ils peuvent tous mais se mettre sur le
poster. Il était en compétition l'an dernier. Oui, et là, il sera un certain regard, effectivement.
Port Authority de Daniel Leibowitz, premier film.
Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais vu le titre, à mon avis, ça a parlé de la station de bus de New York.
Right.
C'est là où tous les Greyhounds arrivent.
Ok. Papicha de Mounia Medour. Aucune information. Adam de Mariam Touzani. Aucune information. Zourenmui.
J'ai, en fait, ça faisait quelques lignes que je scrutais le moment où t'allais
dire ça ce va. Titre.
Tu l'as plutôt bien dit, je pense.
Zourenmui de Midi Z.
C'est assez drôle comme nom. Et comme titre et comme nom de réalisateur.
Ça fait un peu artiste des années 90, tu vois, genre Midi Z avec après le... Comment s'appelait le Bill... Allez, l'émission avec Vincent Lagaffe sur TF1.
Le Big Deal.
Oui. Liberté de Albert Serra. Non, décidément.
Je ne sais rien de ces films.
Ben voilà, mais c'est bon. On dit le voilà. Boule de Annie Silverstein, le premier film. Summer of Shangja, film de Zhong Feng, premier film également. Et Eve de Nariman Aliyev, premier film également. Tous des films dont tu vas pouvoir peut-être nous parler quand tu seras à Cannes. Je pense pas, parce que t'as déjà beaucoup de films à voir quand même. T'as déjà du boulot.
Bah, la compète, elle est canon, je trouve, la compétition. Donc, voilà. À certains regards, il y aura peut-être un peu moins de films. Alors, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'ai vu qu'à la quinzaine des réalisateurs, il y a quand même quelques trucs qui me tentaient bien. Pareil à la semaine de la critique. Donc, voilà.
Bon, c'est toujours difficile. Il y a tellement de films qui sont projetés à Cannes. Je trouve ça c'est un peu too much quand même.
Ouais. Par contre, il n'y a pas le film d'Ari Aster, Midsommar. Ça, je suis un peu triste.
Ah, c'est con ça.
Ouais, très triste. Et Tarantino, toujours pas confirmé.
Non, Tarantino n'est pas confirmé avec Once
Upon a Time. Et Ad Astra sortira pas, non. Enfin, il sera pas là.
Non. Once Upon a Time in Hollywood n'est pas confirmé pour le Festival de Cannes. Alors, vu qu'il sort en août, il va...
Bah, si c'est pas Cannes, c'est aucun festival. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Donc, ce serait quand même bien qu'il essaye un maximum d'être présent. Je propose qu'on parle de At Eternity's Gate avant d'aborder les films hors compétition. Ou bien on parle rapidement des films hors compétition avant de parler de At Eternity's Gate.
Bah écoute, on peut aller rapidement sur les films
hors compétition. Oui, faisons ça tant qu'on est dans le Festival de Cannes. Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch.
Alors, c'est la suite de, si je ne dis pas de bêtises, Un homme et une femme.
Très bien.
De son célèbre Un homme et une femme. Hein.
Rocket Man. De Dexter Fletcher, le fameux biopic un peu exagéré de la vie de Elton John.
Ouais.
Avec Taron Egerton qui chante remarquablement bien.
Ah ouais?
Oui, oui, il y a des extraits sur YouTube de lui qui chante Elton John, c'est assez canon.
Moi, honnêtement, ce film ne m'excite pas du tout. J'en ai strictement rien à foutre.
Mais en tout cas, avec le succès de Bohemian Rhapsody l'année passée, ils vont tester de faire un truc.
Hein, j'irai sans doute un peu, mais...
pas un peu,
ce sera pas ma priorité, tu vois.
Tire un peu, tire à tapis rouge, s'il te plaît. To Hold, To Die Young, North Hollywood, West of Hell, de Nicholas Winding Refn.
Alors, ce n'est pas un film.
C'est une série.
C'est une série. Amazon, si je ne m'abuse.
Je pense aussi, oui.
Oui, donc ils vont passer deux épisodes, parce que voilà. Enfin, bon, que veux-tu.
Parce qu'ils aiment bien Nicolas et il a une carte membre.
Parce que les règles contre Netflix, c'est que contre Netflix et c'est pas contre les autres.
Oui, bien sûr. Et puis on va mettre une série dans les films.
Société de VOD, mais oui.
Diego Maradona de Asif Kapadia. Alors là.
Ah, bah clairement, un docu sur Maradona, moi je suis vendu.
On est tous bons là.
J'achète.
La belle époque de Nicolas Bedos.
Tu es.
Et quoi?
Ça t'a pas fait du bien ces deux semaines de pause, hein?
Non. Deux semaines de pause, j'ai pas. Ah oui, deux pauses cinécastes.
Ouais, même trois semaines de pause cinécastes.
Hein. Non, ça va pas faire du bien du tout, mais d'un côté, tu me donnes la tasse difficile. Tu me fais lire tous les trucs. Ok, ouais. Diego Maradona, la belle époque. Qu'est-ce que tu as à dire sur le film?
Bah écoute, son premier film, là, Monsieur et Madame Adelman, c'était bien. Donc je suis assez curieux de voir le nouveau film de Nicolas Bedos.
The Gangster, The Cop and the Devil, de Lee Won-tae.
Film de minuit, c'est coréen, donc forcément, évidemment, j'ai envie de le voir.
Tommaso, d'Abel Ferreira.
Alors je sais que j'ai pas trop suivi les derniers films d'Abel Ferreira, donc. Pourquoi pas,
hein, on si continue avec Cher de Pipa Bianco. Putain, c'est terrible comme nom. Premier film, Du coup, bah, on ne sait pas en dire grand-chose. Forsama de Wad Al-Kateb. Tu dois vraiment m'aider. De Wad Al-Kateb et de Edward Watts. Un duo assez particulier. Là.
Je pense que tu l'as plutôt bien ouais, hein. prononcé.
Tu sais de quoi ça parle? Non. Être vivant et le savoir, ça c'est quand même une belle leçon de vie. De Alain Cavalier. Et enfin, Family Romance de Werner Herzog.
Ouais. Bah, c'est Werner Herzog. Hein, donc, un peu, j'ai été un peu surpris de, pas voir, que, de voir qu'il n'y avait pas Toy Story 4.
Ben moi aussi, c'est ça que j'allais te dire. Je trouve que, bah, peut-être pas Toy Story, mais en tout cas, je trouve que d'habitude, on a toujours au moins un ou deux films. L'année passée, il y a eu Solo. Quelques années avant, il y a eu Pirates des Caraïbes, etc. Il y a toujours un film un peu populaire qui débarque sur la croisette.
Il y a Rocketman, là, mais parce oui, mais que c'est...
Elle est vraiment
John,
populaire
quand même
de chez populaire.
Ouais, ouais. Mais...
Si pas Transformers, presque, quoi, tu vois.
On attend le Tarantino, mais...
Ouais, mais c'est pas... Lui, mais c'est non, en compétition.
Fera... Ouais, mais ça fera un tapis rouge de malade. Hein.
Bien sûr. Il manque un peu la belle affiche, hein, qu'on se le dise tout de suite. Il y a, pas... il y a plein de chouettes affiches.
Je peux m'en passer de la super belle affiche. Enfin, du truc
c'est
populaire.
Comme un événement.
Je peux m'en passer. Mais parce que Toy Story 4, ça ferait pas un tapis rouge de fou. Mais c'est un événement d'avoir Toy Story 4.
Jordan Peele, Keegan Michael Key. Ouais, ils font des voix, ouais.
Keegan Peele.
Ouais, Keegan Peele font des voix dedans. Il y a Tom Hanks. Voilà, il y a quand même du sympathique, quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais
ça fait quand même plaisir.
Oui.
Mais oui, oui, c'est clair qu'il n'y a pas encore ce tapis rouge. Bon, maintenant, le Festival de Cannes essaye de se différencier des autres. Il essaie d'être un petit peu moins people. Et d'être plus axé sur des films du monde, films de partout.
C'est
on
pas
a
qu'ils
des
essaient
sénégalais.
D'être moins people, c'est qu'ils n'ont pas le choix surtout.
Oui, mais du coup, ils essaient de sauter
c'est
sur
pas,
la
c'est
vague.
Pas une des... chose, hein, ouais, oui. c'est effectivement, pour des raisons de calendrier, les Américains préfèrent Venise. On le dit depuis des années maintenant, c'est quand même pas nouveau. Donc forcément, Venise aura toujours des trucs a priori un peu plus sexy.
Un peu plus Oscar.
Ce qui ne veut pas dire mieux,
oui.
Mais un peu plus sexy.
Tout à fait.
Que Cannes n'arrive plus aussi bien à voir. Mais voilà, ce sont des choix. Et je pense que les choix de Cannes sont globalement payants. Effectivement, quand on voit la saison des cérémonies de récompense de ce début d'année, mm-hmm. c'est que des films de Cannes qui y étaient. Hein. Venise, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Donc, à part Roma et The Favorite, globalement, c'est surtout les films de Cannes qui ont marqué.
C'est vrai. Donc, il y a une qualité. Il n'y a peut-être pas la reconnaissance, mais en tout cas, il y a une grosse qualité à Cannes. Et c'est pour ça qu'on a toujours hâte d'aller au Festival de Cannes et de vous en parler dans Cinécast ou ailleurs, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Ce qui sera le cas, Thibaut.
Mais on va quand même parler de Venise. Un petit peu.
Mais comme chaque année.
Ben oui, parce que Eternity's Gate, film qui n'est pas sorti partout en France, c'est sur Netflix.
Tout à fait.
Voilà. Et chez nous, on a la chance de le voir sortir en salle.
Sur un grand écran.
Ben oui, parce que c'est un beau film.
Un beau film avec Willem Dafoe dans le rôle de Vincent Van Gogh, ce qui n'est pas une partition très facile à jouer.
Rôle qui lui a valu le prix d'interprétation à Venise quand même. Hein, donc,
Tout à fait, il y a un beau casting avec lui. Hein. Il y a Rupert Friend, il y a Oscar Isaac,
oui.
qu'on voit partout.
Oscar Isaac qui est doublé quand il était doublé. Quand les personnages parlent français, c'est eux qui parlent français. En général, ils parlent anglais, tu vois. Mais ça arrive qu'ils disent quelques phrases en français.
Mm-hmm.
Oscar Isaac, non. C'est pas lui qui a parlé français.
Okay.
Ils l'ont doublé en post-prod, c'est assez, assez moche, mais bon, soit. C'était quand même drôle.
J'ai vu ça l'autre jour. Il y avait Inception à la télé sur RTBF. Et Marion Cotillard fait sa voix.
En français.
En français.
Ouais.
Mais sauf que ça va pas du tout avec forcément ce qu'elle dit, parce que c'est pas... Pardon, elle parle en anglais dans le film.
Casse pas le micro.
Non, elle parle en anglais dans le film, du coup, en anglais, elle va dire un truc genre « Non, baby !» Et en français, elle fait genre « Mais je pense pas que je t'ai dit que c'était... » Ça sonnait pas bien du tout, t'as « Oh non !» Donc voilà. Oui, donc tu disais, à Eternity's Gate, on va plonger dans les lettres de Vincent Van Gogh pour être plus précis. Et là, est-ce qu'on va se concentrer sur quoi? Sur un événement en particulier? Sur plusieurs petits récits?
Sur une période de sa vie. La fin de la période de sa vie, en fait. Enfin, la fin de sa vie.
La fin de sa vie, d'accord.
Le moment où il s'est un peu exilé à la campagne, où il était, il avait déjà du succès, il recevait déjà son argent tous les mois. Mais c'est le moment où il a commencé un peu à... partir en couille aussi.
Et la maladie, non ?
Oui, il a dû aller être interné à un moment. Donc,
ouais.
C'est cette période délicate de la vie de Van Gogh, jusqu'à la fin.
Tout à fait.
Donc, c'est une période assez mouvementée. Il a eu le soutien de pas mal de personnes, Donc il y a plusieurs personnages relativement récurrents qu'on voit dans le film. Mais Eternity's Gate est un film assez particulier parce que t'as l'impression de voir un film sans voir un film, t'as l'impression de voir un tableau un peu. Mmh. Au niveau de la photographie, il y a un travail énorme qui a été effectué. Donc c'est très pictural, c'est très très visuel. Et il y a un petit côté Terrence Malick par moment où je filme quelqu'un marcher dans un champ avec la main dans le blé et je filme les arbres avec les feuilles qui bruissent au vent.
On
qui va peut un peu agacer.
On essaie de rentrer dans les tableaux de Vincent Van Gogh. Quoi.
Ouais, il y a quelque chose de très immersif. Ça peut gêner certains. Mais alors moi j'ai mis un peu de temps à aimer le film. Je trouvais que le début était parfois un peu laborieux. Et puis petit à petit, je suis rentré dans la vision artistique de Julien Schnabel, le réalisateur, celui qui a fait Le Scaphandre et le Papillon il y a quelques années. Et il est venu présenter le film à Bruxelles. D'ailleurs, j'ai vu il y a quelques semaines. Je suis bien rentré dans ce qu'il essayait de raconter, ce qu'il essayait de montrer, parce que c'est jamais évident de faire des films sur l'art. Et là, il a essayé de faire quelque chose de différent. Donc, certes, le film en lui-même est limite une œuvre d'art aussi, mais il le fait en racontant la fin de vie d'un artiste majeur du siècle dernier. Et il arrive assez bien à rentrer dans sa tête. Alors, il n'y a personne ici qui peut dire « je sais ce que pensait Van Gogh ».
Non.
Voilà. Mais il propose une vision de la chose assez intéressante, avec aussi la mort de Van Gogh qui diffère par rapport à certaines versions. Il y a plusieurs versions qui tournent. Une qui globalement dit qu'il a été agressé par des gens, etc. Lui, il a choisi, enfin Julien Schnabel, c'est pas lui tout seul, parce que c'est tiré d'un roman, ou en tout cas d'un livre d'Emmanuel Carrère, le grand écrivain français. En tout cas, eux, ils ont préféré une autre version de cette mort. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez assez différent et très singulier, parce que c'est une œuvre un peu hybride, comme ça, c'est une œuvre en tant que telle, mais il y a une histoire, une biographie intéressante dedans, faite avec beaucoup de sensibilité, de justesse. Je trouve que Willem Dafoe est vraiment incroyable. Il méritait complètement, et pour moi c'était le favori, au prix d'interprétation à Venise, excellent choix. Willem Dafoe ne fait globalement que des bons choix. Presque que des bons choix de carrière.
Il a fait un mauvais choix.
Il était dans un coma là dernièrement. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui.
Donc bref, voilà. Globalement, Willem Dafoe fait beaucoup de bons choix, mais pas toujours.
En parlant de mauvais choix, j'ai vu récemment Nine Lives avec Kevin Spacey. Alors ça, mon vieux.
Oui, mais Kevin Spacey n'a pas fait que des mauvais choix au cinéma.
Et il y a Christopher Walken dans le film. Ah. Et Kevin Spacey se transforme en chat.
Ben oui.
Voilà. Oui. C'était super. Du coup, qu'est-ce que tu donnes à Eternity's Gate, pardon?
Peut-être bien un 3. Peut-être 3. Bien 3 étoiles, ouais. C'est très particulier, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer, ça je le sais. Je ne suis même pas sûr que je reverrai le film. Parce que ce n'est pas un film que j'ai adoré, tu vois, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui m'a touché, dont j'ai beaucoup apprécié l'approche cinématographique, la vision artistique des choses. Donc voilà, c'est
un peu
très très belle œuvre.
La contre-programmation parfaite par rapport à Avengers, quand même.
Ça, c'est plus clair. Opposé que ça, c'est compliqué.
Plus opposé que ça, il n'y a pas. Voilà, c'était les trois films de notre épisode 28 de Cinécast après cette petite absence. Je propose que, comme chaque épisode, on clôture en parcourant les films qui sortent cette semaine, même si, vous l'avez compris, on a vu ceci. Funan, un film de Denis Do avec Bérénice Bejo et Louis Garrel.
C'est un film d'animation.
Tout à fait.
Que je n'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très très bien.
Bah, voilà, écoutez, si les échos sont bons. Santiago Italia de Nanni Moretti.
C'est un docu.
Un film documentaire, tout à fait.
Parce qu'on en aurait entendu plus parler que ça si Nanni Moretti avait fait une fiction.
Tout à fait. Mid-90s de Jonah Hill, on vient d'en parler. Un film 2 étoiles, du coup, où Jonah Hill nous transporte dans les années 90 avec cette génération de jeunes adolescents qui se prend pour des skateurs et qui achètent des Vans, dont nous faisions partie Thibaut. Quatrième film, c'est Duel, le film de Olivier Masset de Passe. avec Veerle Bartens et Anne Cousins, un film belge, un thriller belge, néerlandophone, je suppose.
Non, francophone.
Francophone, allez. Avec Veerle Bartens, ok. Et donc, du coup, on n'a pas vu. Sophia de Meriem Ben Barek, film dramatique français. At Eternity's Gate, on vient d'en parler, 3 étoiles, c'est entre guillemets notre film de la semaine du coup, avec William Dafoe dans le rôle de Vincent Van Gogh, film assez particulier, on vous l'a dit. Another Day of Life de Raoul de la Fuente, un film d'animation biopic.
Ouais, qui était présenté hors compétition l'an dernier à Cannes.
Mais décidément.
Et qui parle de la guerre en Angola au début des années 90, si je ne m'abuse. Très très beau film d'animation. Avec une histoire hyper intéressante qui suit un journaliste qui couvre le conflit en fait. Voilà, c'est une coprod Belgique, Pologne, je sais plus quel autre pays, si je me souviens bien. Très très beau film, voilà, j'avais beaucoup aimé.
Incroyable de voir tous ces films qui sortent si longtemps après le festival de l'année passée, presque un an jour pour jour. L'adieu à la nuit, un film de André Téchiné avec Catherine Deneuve dans le rôle principal. On n'a malheureusement pas eu la chance de le voir. Film dramatique du coup français. Sakawa, documentaire belge de Ben Asamoah. Film dont on n'a pas pu voir non plus. Victor et Célia, film de Pierre Jolivet avec Arthur Dupont et Alice Belaïdi, que j'ai l'impression de voir dans tous les films. Comédie française du coup. Et enfin, Avengers Endgame de Joe Russo, Joe et son frère bien sûr, hein, les deux Russo, qui clôture le premier chapitre de la saga Marvel Cinematic Universe d'une manière assez satisfaisante, quoique un petit peu en deçà d'Infinity War. C'était un peu la critique de Thibaut Vandenberg en début d'émission, pour 2 étoiles pour ce film-là. Tu sais comment je parle ça, quand on a une transition presque. Et donc sur ce coup-là, je vous souhaite, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Cinécast. Merci également de vous abonner aux différentes plateformes. On a vu que vous étiez très très actifs sur iTunes, ça nous fait plaisir et que vous rattrapez avec plaisir les anciens épisodes. Hein. Pas mal d'entre vous ont écouté l'épisode Avengers Infinity War en préparation à Avengers Endgame. On espère que celui-ci vous aura plu également. Et on vous souhaite à la semaine prochaine. Ou pas, ça dépend un peu de l'actualité personnelle de moi.
oui, surtout de toi.
Oui, voilà.
Très honnêtement, j'ai pas eu grand chose de la semaine prochaine, je t'avoue.
Ça pour l'instant. Bien alors, du coup.
J'en ai vu un.
T'en as vu un. Donc, mon avis sera pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Donc, on se dit à très bientôt pour Cinécast, histoire de clôturer cette saison en beauté, avant que Thibaut ne parte au Festival de Cannes. Quoi qu'il arrive, on en fera d'office une après aussi. Mais à mon avis, on va tourner autour des 30, 32 épisodes cette saison-ci. On vous remercie de nous avoir écoutés et à très bientôt.
Des bisous.
Ciao, ciao.